Moi, je t'ai fait confiance. Tu m'avais na kilikana ça. Yeah.
Une semaine d'actualité.
Na kalikene la.
Chantal Leroux.
Ma chérie, na kalikene la.
Bonjour, bienvenue dans une semaine d'actualité. Nous allons revivre les moments forts des 7 jours écoulés à travers les reportages de la rédaction et des correspondants de RFI dans le monde. Nous irons de Kenosha à Berlin en passant par Abidjan et Bamako. Et pour commenter cette actualité, nous sommes ravis d'accueillir Alain Mabonkou. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes écrivain, vous avez publié une trentaine d'ouvrages, romans, essais, poèmes. Vous enseignez depuis 2006 la littérature d'expression française à l'Université de Californie à Los Angeles. Et vous nous ouvrez aujourd'hui les portes de votre Amérique dans un livre à la fois léger et profond, drôle et poétique, entre journal, billets d'humeur, souvenirs, choses vues, coups de cœur et coups de griffe. Rumeur d'Amérique vient de paraître chez Plon. Comment vous est venue l'envie d'écrire ce que vous appelez votre autobiographie américaine?
À vrai dire, je l'avais commencé il y a à peu près 2 années où je m'étais dit, je voudrais bien, après 17 ans de présence aux États-Unis, faire une sorte de bilan de ce que je fais, de comment je passe des journées, de comment je regarde les Américains, comment je réagis face aux événements sociaux, politiques, etc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire pratiquement comme un verbatim. Tous les jours, j'écrivais quelque chose, j'écrivais un petit chapitre. S'il y avait, un incident quelque part, je le notais. Et à la fin, j'ai vu qu'en traçant le portrait pratiquement de cette Amérique noire, de cette Amérique blanche ou métissée, je traçais pratiquement le portrait que pourrait avoir un Africain ou une Africaine qui vit aux États-Unis. C'est une sorte de feuille de route, c'est une sorte de livre qui s'écarte un peu des principes des ouvrages touristiques pour être plutôt personnel, écrit à la première personne.
Et vous écrivez joliment, mes livres habitent la géographie imposée par ma transhumance entre l'Afrique, l'Europe et à présent l'Amérique.
Je pense que un écrivain doit se fondre dans le décor. Moi, j'ai vu ce livre comme étant un livre qui se comportait à l'instar d'un caméléon. C'est-à-dire, ce livre a pris la couleur de l'environnement. Ce livre parle peut-être de l'Amérique. Ce livre parle aux Américains, mais en réalité, ce livre parle à ceux qui ne sont pas aux États-Unis aussi. Et peut-être ceux qui y sont vont découvrir des choses dont ils ne faisaient pas attention forcément.
Oui, parce qu'on a des idées préconçues, nous aussi, sur l'Amérique.
On a des idées préconçues. Regardez, je vous donne un exemple. Si vous prenez le mouvement des droits civiques dans les années 60, quand on demandait à ce qu'on reconnaisse un peu l'existence des Noirs américains, on avait cette sorte de ferveur. Il y avait les grandes figures noires qui ont combattu pour cela. Mais on a oublié, par exemple, qu'il y avait aussi des Blancs, notamment ce journaliste, Paul Guillard, qui est allé couvrir la première entrée dans une université réservée aux Blancs, la première entrée d'un Noir dans cette université, grâce à la décision de la Cour constitutionnelle américaine. Et les gens n'étaient pas toujours d'accord. Et ce Français, moins de 40 ans, est allé là-bas pour couvrir cette sorte de révolution sociale. Il est arrivé sur place pour l'AFP. Malheureusement, il a été assassiné par d'autres blancs suprémacistes parce qu'ils estimaient qu'un blanc ne pouvait pas venir donner la main aux noirs qui étaient là. Donc, ce sont ces petits personnages que j'ai essayé de relever. Et beaucoup ne savent pas que, par exemple, à Détroit, dans le Michigan, l'empreinte de la France est là. La ville de Détroit a pratiquement été créée par un Français qui était envoyé là-bas pour aller installer des colonies. Et d'ailleurs, la voiture que vous entendez parler souvent de la voiture Cadillac, c'est un Français, le comte de Cadillac. Eh bien, cette voiture est une sorte de reconnaissance pour les Américains, reconnaissance que la France ait un peu prêté sa main dans la création de cette ville de Détroit.
Alors, dès les premières pages de votre livre, vous évoquez vos rapports parfois compliqués avec les Africains américains. D'abord, il y a ceux qui vous demandent pourquoi vous vous exprimez et pourquoi vous vous écrivez en français. Et puis, il y a ceux qui nous reprochent, écrivez-vous, à nous autres venus d'Afrique, d'avoir eu des accointances avec les négriers qui avaient déporté leurs ancêtres. Vous avez vraiment essuyé ce genre de reproches?
Ah oui, ce sont des choses ça ne date pas de maintenant. J'avais déjà commencé à souligner cela dans un précédent livre qui s'intitulait « Le sanglot de l'homme noir », où j'avais eu un incident grave avec un noir américain qui m'avait pratiquement pris à partie parce que tout simplement j'étais africain et dans son esprit, les Africains avaient contribué à faciliter la vente d'autres Africains aux négriers. Donc c'est une pédagogie à faire. Quand vous avez une tragédie comme celle de la traite transatlantique, forcément il y a des complicités. Et l'histoire aussi consiste à raconter, c'est vrai, la grande histoire, mais aussi ce qui était à côté. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de complicité, mais on ne peut pas non plus réduire l'histoire de la traite atlantique par rapport à ces complicités qui ne caractérisaient pas vraiment la généralité, parce que tout simplement, la traite négrière est une rapine. C'est l'arrivée d'un conquérant qui jette une sorte d'OPA sur les populations qui sont sur place. Il les met dans les négriers pour aller les vendre.
Vous dites, rien n'y fait, en Amérique, je suis un Africain. Mm-hmm. Quand vous êtes arrivé aux États-Unis, est-ce que vous avez été surpris par la réserve, voire la suspicion de certains Afro-Américains par rapport aux Africains ?
J'étais surpris, mais en même temps aussi j'étais enchanté parce qu'il y a d'autres Noirs américains qui me prenaient comme, en quelque sorte, leur éclaireur, celui qui vient du continent et qui peut leur expliquer l'Afrique en détail. Et donc je n'étais pas forcément le petit canard boiteux, j'étais aussi quelqu'un, un cheval que certains Américains pouvaient emprunter pour aller d'une direction à une autre. Je pense aussi que l'Africain doit non seulement expliquer ce qui se passe dans le continent africain, mais aussi expliquer comment l'Afrique est devenue mobile et s'est étendue à travers le monde.
Alors, vous avez habité longtemps à Santa Monica, la ville abrite vos premiers souvenirs de Californie. Elle occupe la même place dans votre cœur que votre ville de naissance. C'est ce que vous écrivez, hein?
Oui, je pense Pointe-Noire, oui.
Et votre cité d'adoption, Paris. Oui. Et pourtant, vous avez quitté Santa Monica pour Los Angeles. Expliquez-nous pourquoi.
Mais oui, parce que dès que j'étais arrivé en Californie, j'habitais à Santa Monica. Ça me rappelait un peu la côte de Pointe-Noire, les cocotiers que j'apercevais là-bas me donnait le soupçon d'avoir ma petite Afrique à l'intérieur. Santa Monica aussi, c'est une ville qui a connu les colons comme les villes côtières en Afrique. Santa Monica aussi, c'est une ville qui peut avoir des accents africains, puisque Santa Monica, ça vient un peu de cette sacralisation qu'on avait de cette héroïne berbère qui était arrivée. Donc, c'est l'Afrique du Nord qui se retrouvait là. Et moi, ça me donnait l'impression que j'avais l'Afrique. Si je suis allé du côté de vivre plutôt au centre de Los Angeles, c'est parce que à Santa Monica, je me sentais vraiment comme une tache au milieu de la page blanche. C'est une ville blanche à plus de 70%, riche, et donc dès que vous êtes noir à l'intérieur, le questionnement est là. Mais j'étais passé entre les mailles du filet, peut-être tout simplement parce que j'enseigne à l'université, que je...
Oui, voilà.
Voilà, ça c'était un alibi qui permettait aux blancs d'être tranquilles, de se dire, lui, ce n'est pas le noir américain qui va venir braquer ma maison, mais lui, il a été à Paris, il a fait les études, et il enseigne à l'Université de Californie.
Voilà, vous écrivez, je lisais l'expression de leur soulagement quand j'entrais tiré à quatre épingles dans un restaurant sur Montana Avenue. Et vous dites aussi, à Santa Monica, on peut être noir et considéré si l'on est élégant, si l'on est prof donc à l'université, mais si on est noir, mal habillé et à la recherche d'un travail, donc j'imagine que c'est une autre histoire.
Ah, c'est une autre histoire. Donc tout est... L'Amérique aussi, c'est une ville de titre, de l'apparence, de ce que vous avez fait. C'est peut-être aussi l'exemple même que, à travers toute cette population blanche qui a les privilèges aux États-Unis, ils ouvrent une petite fenêtre dans laquelle on se dit un noir qui a atteint peut-être ceci ou cela dans la société peut entrer et peut être toléré, mais il faut qu'on change les choses. Il ne faut pas qu'il y ait une partie qui puisse décider du destin de l'autre.
We have to win. This is the most important election in the history of our country.
Give me a fucking light!
Put pressure on it!
Lives have always mattered! We have always been important! We have always meant something! We have always...
Sept jours dans le monde.
Et l'on retourne aux États-Unis où 3 mois après l'affaire George Floyd, une nouvelle bavure policière provoque une vague d'indignation. Le drame s'est passé dimanche dernier à Kenosha, dans le Wisconsin. Un Afro-Américain de 29 ans, Jacob Blake, a reçu 7 balles dans le dos, tirées à bout portant par un policier blanc. La vidéo a fait le tour du monde. Grièvement blessé, la victime devrait rester paralysée des jambes. Depuis, la ville de Kenosha est en ébullition. 2 personnes ont été tuées par balle mardi soir par un adolescent de 17 ans, membre d'une milice d'extrême droite. Le reportage à Kenosha de notre envoyé spécial Anne Corpet.
Ne tirez pas, crient les manifestants qui arpentent les rues malgré le couvre-feu. Toutes les façades sont barricadées pour parer au pillage, mais contrairement à la veille, aucun civil armé ne circule. Adam manifeste pour la 4e nuit consécutive.
On savait que des gens armés allaient venir, mais on ne savait pas qu'ils allaient ouvrir le feu sur la foule. On a affaire à des adolescents blancs armés de fusils semi-automatiques dans la rue qui tirent sur les manifestants. C'est insensé.
It's insane.
Le policier qui a tiré dans le dos de Jacob Blake a simplement été mis à pied. C'est ce qui hérisse Varneo Peterson, un Afro-Américain de Kenosha.
Pourquoi ce policier n'a pas été inculpé? Ce genre de choses arrive dans notre communauté depuis trop longtemps et personne n'est jamais tenu responsable. C'est pour ça que je suis ici après le couvre-feu.
Sur l'avenue Sheridan, des voitures calcinées témoignent des émeutes des nuits passées. Jim, retraité, sort son chien devant chez lui. Il n'est pas choqué par la mort des 2 manifestants.
Il y a des idiots qui détruisent ma ville. Ils ne sont pas d'ici et je pense que tous les habitants de Kenosha doivent sortir leurs armes pour virer ces gens hors de notre ville.
La garde nationale reste cantonnée dans ses véhicules blindés. 2 hélicoptères survolent Kenosha, ville reflet d'une Amérique divisée.
Une bavure policière de plus contre un Afro-Américain, une bavure de trop pour les basketteurs de la NBA. Les Milwaukee Bucks, l'équipe de NBA du Wisconsin, a décidé de boycotter mercredi un match décisif de play-off contre Orlando. Aussitôt imité par les joueurs des 2 autres matchs du soir, Houston-Oklahoma City et Los Angeles-Lakers-Portland, LeBron James, la superstar des Lakers, a tweeté « Nous demandons le changement, on en a marre ». À Los Angeles pour RFI, Loïc Piala.
Cette journée a déjà marqué l'histoire de la NBA et le mouvement, qui a fait tache d'huile dans d'autres sports, ne va peut-être pas s'arrêter là. Pendant 3 heures mercredi soir, les joueurs ont échangé sur la suite à donner au boycott. Apparemment, les Lakers, sous l'impulsion de la superstar LeBron James, et les Clippers, l'autre équipe de Los Angeles, ne veulent pas continuer la saison. Les autres franchises souhaitent reprendre. Une nouvelle réunion est prévue ce jeudi. Parmi les questions que se poseraient les joueurs désormais, quel plan d'action établir et quelles seront les conséquences financières de leur mouvement ? Depuis la reprise fin juillet, beaucoup d'entre eux ont décidé d'utiliser la NBA, une ligue composée à 80% d'Afro-Américains, comme une plateforme pour demander du changement dans le traitement des Noirs aux États-Unis. Ils mettent un genou à terre pendant l'hymne national, ils ont remplacé leur nom sur leur maillot par un slogan type « Égalité » ou « Black Lives Matter ». L'affaire Jacob Blake, 3 mois après la mort de George Floyd, prouve que le changement qu'ils attendent prendra du temps.
Alain, à bon coup, Anne Corpet évoquait tout à l'heure Kenosha, reflet d'une Amérique divisée. Est-ce que vous qui vivez aux États-Unis, vous avez le sentiment que l'Amérique est plus divisée que jamais et que Donald Trump souffle sur les braises ?
En 2016, lorsque Donald Trump est arrivé, il est arrivé sous le sceau de la division. Vous avez là donc un président qui, par Twitter, peut donner un coup de chapeau aux extrémistes, peut féliciter des gens qui sortent avec des armes. On a cette scène où il y avait un couple de blancs avec des armes qui dressaient contre les noirs qui manifestaient de l'autre côté. Et le président a retweeté cela. Je veux dire que le président passe son temps à agiter un peu le foulard rouge de la division. C'est un président qui sait qu'il ne peut gagner qu'en sémant le chaos. Parce que si on va dans une certaine lucidité, eh ben, il n'ira pas loin. C'est pour cela que déjà, il commence à donner une certaine idée selon laquelle les élections de toute façon sont truquées. On ne peut pas rater. Si on rate, c'est que ce sont les gens qui ont fait des magouilles, notamment les démocrates. Donc, cette division est suicidaire actuellement. C'est ce qui se passe avec l'assassinat pratiquement en plein jour.
Devant ces 3 jeunes enfants qui étaient dans la voiture à côté.
Je vais dire que c'est d'une atrocité et vous avez tout de suite les suprémacistes qui sortent pour tirer sur la foule. Ça répète en quelque sorte la scène qu'avait approuvé le président de la République, Donald Trump, lorsqu'il y a deux blancs qui pointaient leurs armes vers les noirs. Pour eux, peut-être la guerre civile, c'est une perspective, mais je pense que nous souhaitons tous que la donne puisse changer et que peut-être le couple présidentiel, dans le sens de le ticket américain, Biden-Harris, pourrait changer justement cette donne-là.
Dans votre livre « Rumeurs d'Amérique », vous évoquez l'assassinat en mars 2019 du rappeur Nipsey Hussle, criblé de balles sur le parking de son magasin de vêtements à un quart d'heure de votre immeuble. Oui. Vous tentez alors de vous rendre sur les lieux, comme bon nombre de ses fans. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Les premières bombes lacrymogènes sont lancées. Vous courez pour essayer de vous protéger les yeux des brûlures et vous écrivez « Jamais loin dans la tête des Afro-Américains, il y a aussi l'éventualité que la police ouvre le feu. » Ça veut dire qu'un Afro-Américain aux États-Unis est toujours, encore aujourd'hui, sur ses gardes face à la police.
Je veux dire que la police n'a pas confiance aux Afro-Américains. Quand on voit un Afro-Américain, on pense forcément à un potentiel criminel. Et donc, ni les Noirs américains eux-mêmes non plus ne font pas confiance à la police de leur nation. Et donc, je pense que la psychose demeure de plus en plus là, tout simplement parce que même la police en question, qui est censée assurer l'ordre, est plutôt en train de commettre les exactions les plus retentissantes que l'histoire des États-Unis nous aura montrées.
Comment vous avez vécu, vous, au mois de mai, ce cataclysme déclenché par la mort de George Floyd? Vous êtes allé manifester à l'appel du mouvement Black Lives Matter?
Oui, puisque à Los Angeles, j'assiste toujours aux réunions de section de Black Lives Matter, puisque j'habite là, il est important que je sois au courant de ce qui se passe. C'était un ressentissement, c'était un choc. On pensait que c'était à la télé que ça se passait. On vit à Los Angeles, on a eu tous les scénarios possibles à Hollywood de voir cette mort en direct. Comme si c'était un film, le choc était tel que ça ne m'avait pas étonné que la planète entière puisse secouer. Mais on pensait que après ça, on avait entendu. Mais non, regardez, ça continue. La liste continue. Il y a presque même une arrogance. Les assassins ne se cachent même plus. La police, je ne sais pas si vous avez un problème, il faut appeler la police ou appeler directement un assassin.
We come together tonight to imagine a future. Determined by the shining light of our hopes and values and faith.
Après les démocrates la semaine dernière, les républicains ont à leur tour organisé leur convention, une convention largement virtuelle, Covid oblige, clôturée jeudi par Donald Trump qui avait privatisé pour l'occasion les jardins de la Maison Blanche. Éric De Salve.
C'est l'élection la plus importante de notre histoire, prévient Donald Trump. Le choix entre deux Amériques, dit-il. La sienne, présentée comme celle de l'ordre ou celle du chaos, démocrate abandonné à Joe Biden, le centriste de 77 ans qui serait, selon Trump, une marionnette de l'extrême gauche.
Biden est un cheval de Troie du socialisme. Joe Biden est un faible. Il prend ses ordres chez des gauchistes hypocrites qui conduisent leur ville à la destruction tout en vivant loin de ce saccage. Et quand je demande s'il veut couper les financements de la police, Joe Biden répond « oui, absolument ».
En réalité, Joe Biden dit exactement l'inverse, mais le show politique prime sur la véracité. Un discours d'1h10 devant 1500 personnes sur le National Mall. Jamais un président américain n'avait accepté sa nomination depuis la Maison Blanche, privatisée au service du Parti républicain. Après 4 jours d'une convention, tout à la gloire de Donald Trump, avec en clôture un chanteur d'opéra et un feu d'artifice pour écrire le slogan Trump 2020 dans le ciel de Washington.
Alain Mabankou, Donald Trump continue d'agiter le spectre de la fraude, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, fraude à laquelle conduira d'après lui le vote par correspondance, le vote à distance, qui devrait être choisi par près de 75% des Américains à cause du Covid. Oui. Pensez-vous, comme certains, que Donald Trump pourrait refuser, en cas de défaite, et de défaite étroite, de reconnaître les résultats?
Mais le paradoxe, c'est que lui-même, Donald Trump, a toujours voté par correspondance. Sa femme a toujours voté par correspondance, sa fille a toujours voté par correspondance, parce que ben il est du côté de New York, mais sa résidence se trouve du côté de la Floride, donc il va pas se déplacer pour aller faire la queue et voter, donc il le fait par correspondance. Mais résultat des courses, qu'est-ce que veut Donald Trump? Donald Trump sait que ce sont les démocrates qui votent le plus par correspondance. En empêchant le vote par correspondance, on diminue le nombre des mobilisés démocrates qui pourraient porter le couple Biden-Harris à la présidence. Donc lui, il préfère qu'on aille sur place voter. Or, les républicains, qu'est-ce qu'ils sont? Ils n'ont pas peur du Covid, ils ne veulent pas porter le masque parce qu'ils estiment que c'est faible, et ils sont capables de se déplacer pour aller voter, alors que les démocrates vont réfléchir 4 fois. Ils vont se dire, je ne vais pas quand même aller attraper la maladie et mourir, je vais le faire selon le vote qui est permis par correspondance. Donald Trump utilise tous les moyens qui sont possibles pour déjà peut-être justifier l'éventuel échec qu'il aurait plus tard. Je ne dis pas que forcément qu'il va échouer ou qu'il va gagner, mais vous savez comment ça fonctionne aux États-Unis. Biden et Harris peuvent avoir 3 millions de voix que plus que Donald Trump, mais Donald Trump peut toujours être président parce que ce ne sont pas le nombre de voix qui font voter un président de la République et un président des États-Unis, mais ce sont le nombre des grands électeurs, ceux qu'on délègue à la convention, et ça, c'est parfois l'État de la Floride, l'État peut-être du Wisconsin, etc., etc. Donc c'est compliqué. Attendons-nous à ce que même si Biden et Harris ont 3 millions de voix de plus que Donald Trump, mais Donald Trump peut toujours gagner. C'est pour
comme
ça
Hillary
qu'ils
Clinton
font,
en voilà, 2016 avait comme, 3 millions voilà, de voix de plus que voilà, Trump.
Ou bien
et
comme,
elle a perdu.
Comme Al Gore face à George Bush, où on avait dû recompter les voix de la Floride et donner la victoire à George Bush. Ça va être très palpitant, et peut-être que le destin de notre humanité actuelle est là. Est-ce qu'on va partir vers la première grande démocratie qui est là, qui va se retourner comme une république bananière? Parce qu'en réalité, soyons clairs, les méthodes qui sont utilisées sont des méthodes qui rappellent ce qui se passe du côté du cœur des ténèbres des dictatures africaines.
On continue à la Mabankou à revivre les moments forts de la semaine dans le monde. Alexeï Navalny a bien été empoisonné 2 jours après le transfert de l'opposant russe à Berlin. Les médecins de l'hôpital de la Charité ont révélé les résultats des premières analyses. À Berlin pour RFI, Pascal Thibault.
Inhibiteur de cholinestérase, c'est le nom du groupe de substances actives découvert dans le corps d'Alexeï Navalny et qui permet de conclure à un empoisonnement de l'opposant russe. Un antidote lui a été administré. Son état de santé reste sérieux et Navalny est toujours plongé dans un coma artificiel dans une unité de soins intensifs. Ses jours ne sont pas en danger. Le communiqué de l'hôpital précise que les médecins traitants sont en contact étroit avec l'épouse d'Alexeï Navalny qui se trouve sur place. Avant que ces informations ne soient rendues publiques, le porte-parole de la chancelière Merkel avait abandonné sa prudence habituelle en déclarant « On peut dire avec une quasi-certitude qu'il y a eu une attaque par empoisonnement ». Une analyse qui explique la décision du gouvernement allemand de placer l'opposant russe sous protection à l'hôpital.
Prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour Brenton Tarrant. Le suprémaciste blanc australien de 29 ans était jugé cette semaine pour avoir abattu 51 fidèles dans 2 mosquées de Christchurch le 15 mars 2019. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a réagi au verdict. Elle a souhaité aux condamnés une vie de silence total et absolu. À Wellington pour RFI, Richard Tindiller.
Lors du verdict, le juge Cameron Mender a déclaré aux condamnés « Vous n'avez montré aucune pitié, il n'y a aucun doute que vous êtes venu en Nouvelle-Zélande pour cibler la communauté musulmane ». Le juge a ensuite conclu avec ces mots « Il n'y a pas de place pour cela dans ce pays, il n'y a pas de place pour cela n'importe où dans le monde ». La justice néo-zélandaise se demande alors aujourd'hui si elle doit garder un tel détenu qui pourra coûter jusqu'à plusieurs millions de dollars à la société. Un échange avec un prisonnier australien a déjà été évoqué pour que l'auteur de la pire tuerie de Nouvelle-Zélande purge sa peine en Australie, son pays d'origine.
Coup de tonnerre politique hier au Japon, la démission du Premier ministre Shinzo Abe pour raison de santé. Il était en poste depuis 2012. Tokyo, Frédéric Charles.
Shinzo Abe avait déjà dû quitter le pouvoir pour des raisons de santé. En 2007, son premier passage à la tête du Japon avait été bref, un an. Il souffre depuis l'âge de 17 ans de crise de rectocolite hémorragique, une maladie incurable de l'intestin. Depuis son retour au pouvoir en 2012, un médicament lui permet d'atténuer ses désordres intestinaux. Mais la maladie est réapparue. Shinzo Abe était décidé, même après deux visites à l'hôpital en une semaine, à rester au pouvoir jusqu'au terme de son mandat en septembre 2021. La bourse de Tokyo cède 1,4% de sa valeur à l'annonce de sa démission. Shinzo Abe incarnait la stabilité politique. Au pouvoir depuis 7 ans et demi, avant lui, le Japon changeait de Premier ministre tous les 17 mois.
Alain Mabankou, dans la foulée de l'affaire George Floyd, les manifestants se sont attaqués au statut de personnage lié notamment à la sombre histoire de l'esclavage. Mm-hmm. La polémique sur les statues a déboulonné, les rues a débaptisé, les livres à réécrire ou interdits de publication a gagné la France. Quelle est votre opinion là-dessus?
Mon opinion, c'est que je suis plutôt favorable à pouvoir lire l'histoire de façon objective. Je n'ai jamais été partisan de pouvoir briser les statues ou quoi, parce qu'il faut que je puisse lire l'histoire. Il faut que les populations, les gens sachent ce que ces personnages représentaient. Pour moi, il ne s'agit pas de déboulonner cela, mais de mettre des contre-lecture de notre histoire. Si à côté d'un raciste, vous mettez les victimes qui ont été sous sa coupole, eh ben, on va lire mieux l'histoire. Mais si vous enlevez la statue, vous effacez ce personnage, vous effacez aussi l'histoire des résistances qui ont tourné autour de cette statue, et ces résistants parfois étaient des Noirs dont les noms aussi vont disparaître. Notre culture, en tout cas ma culture africaine, je le rappellerai, n'est pas forcément une culture de pouvoir aller adorer les statues et de mettre des statues là. Nous, les statuettes sont des statuettes des féticheurs, etc., etc. La vraie reconnaissance des personnages historiques, les vraies statues, nous les avons à l'intérieur de notre cœur.
Sept jours en Afrique.
Il voulait faire du Congo une petite Suisse. L'ancien président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, s'est éteint lundi à 88 ans à Perpignan, dans le sud de la France, où il vivait en exil. Pascal Lissouba fut le premier président congolais élu lors d'un scrutin pluraliste en 1992, avant d'être chassé du pouvoir en 97 par l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Pour l'association Survie, Pascal Lissouba fut une victime de la France-Afrique. Raphaël Granvaux, membre de l'association, a expliqué pourquoi à Sonia Rollet.
Je retiens que c'est un exemple vraiment très révélateur de ce qu'on appelle la France-Afrique et des conditions dans lesquelles la France accepte ou n'accepte pas que des dirigeants soient portés au pouvoir contre ses intérêts. Parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Lissouba trouve les caisses de son pays qui sont vides du fait du pillage du pays opéré par l'entreprise Elf et par le clan de Sassou. Et il va avoir l'impudence de mettre en concurrence l'entreprise pétrolière française avec une entreprise américaine, Oxy, si mes souvenirs sont bons, et il va exiger le doublement de la part qui revient à l'État du Congo. Et ça, Elf ne l'acceptera jamais et va soutenir Sassou Nguesso, qui promet de revenir à la normale. Et comme Sassou Nguesso bénéficie en plus de la proximité de Chirac, de la des mercenaires que la France-Afrique va déployer pour organiser son retour au pouvoir, eh bien, il va l'emporter au prix d'une sanglante guerre civile qui va vraiment endeuiller le pays pendant plusieurs années.
Alain Mabankou, vous êtes d'accord? Pascal Lissouba a été victime de la France-Afrique?
Oui, je pense que Pascal Lissouba a été victime de cette France-Afrique. Cela montre aussi que le plus grand mal aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas forcément la pauvreté, ce n'est pas forcément les situations économiques, mais ces dictateurs qui phagocytent un peu la respiration des peuples. Nous sommes dans une période où nous sommes en train de dire que les peuples noirs doivent respirer, je ne peux pas respirer. Mais depuis les indépendances, dans beaucoup de pays africains, les peuples noirs ne respirent pas. Ils ne sont pas oppressés par des blancs. Ils sont oppressés par des noirs. Ils sont oppressés par des gens qui ont leur couleur. On ne peut pas tolérer que quelqu'un puisse rester plus de 30 ans au pouvoir et chercher encore à se représenter. Regardez, on parlera peut-être plus tard du Mali. Ça finit mal. C'est-à-dire que il y a une façon de sortir de l'histoire. quand il est temps, il faut le faire. Et je pense que Pascal Lissouba était victime de l'impatience de certains qui attendaient dans les vestiaires quelques accointances avec la France pour venir perturber peut-être l'horizon que nous aurons tracé. On avait pour la première fois un président élu au suffrage universel et est arrivé ce coup d'État pour nous installer cette mascarade politique qui va continuer à durer pendant très longtemps. La honte que j'ai d'être un ressortissant du bassin du Congo est telle que lorsque je me parle maintenant du Congo et de sa politique, je baisse la tête parce que ces gens n'ont pas pris le temps de comprendre qu'il faut passer le pouvoir aux autres, il faut former les nouvelles générations et il faut arrêter de donner à son enfant la direction du port, de mettre en OPA le pétrole du pays et puis de se parader comme celui qui est le sauveur de la République. Non, je dis et je le redis, nous sommes aujourd'hui contraints de constater que le cœur des ténèbres des dictatures en Afrique, c'est le bassin du Congo et le Congo-Brazzaville fait partie du peloton de tête.
Vous parliez à l'instant du Mali. C'est sur un échec que s'est achevée lundi à Bamako la médiation de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. La délégation a rencontré les militaires, auteurs du coup d'État du 18 août. Sur le sort d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, un compromis a été trouvé. Pas d'accord en revanche sur la question de la transition. À Bamako pour RFI, Serge Daniel.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a jeté l'éponge. Il ne fera pas le reste de son quinquennat. Il a démissionné et selon la médiation qui lui a rendu visite, il n'a pas envie de revenir au pouvoir. Concession de la junte, il devrait être rapidement libéré. Et s'il veut voyager, il le fera sans problème. Plusieurs autres détenus devraient également regagner leur domicile ou être en résidence surveillée. Mais un principal point de désaccord, le dossier transition. Selon la médiation, la junte malienne a dans un premier temps évoqué une transition de 3 ans et ensuite 2 ans. Proposition non acceptée par la médiation qui envisage plutôt une transition courte, 7 à 12 mois. Qui doit diriger cette transition? De préférence, l'un des militaires, auteur du coup d'État, estime la junte, alors que les envoyés de l'institution sous-régionale songent à un civil ou à un militaire malien à la retraite. Sur tous ces sujets, les discussions se poursuivront entre Maliens d'un côté et de l'autre au téléphone entre la junte et la CEDEAO. Avant de quitter la capitale malienne, le chef de la médiation, Goodluck Jonathan, a bien enregistré la principale demande des militaires, une levée rapide des sanctions imposées au Mali depuis le coup d'État.
Et c'est finalement jeudi que l'ancien président Ibeka a été libéré par la junte du camp de Kati et il a été reconduit à son domicile. Alain Mabankou, que pensez-vous de la manière dont la CEDEAO a géré l'après-putsch au Mali?
Bon, déjà, ce dont je suis fier, c'est que c'est la force du peuple malien aussi. Pouvoir appartient au peuple. C'est au peuple de décider. CEDEAO, c'est une institution avec les organisations. Mais moi, c'est peut-être la réjouissance du fait que Ibeka n'est plus président et que ça devrait sonner l'alerte pour que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir depuis plus de 30 ans ne puissent plus se représenter. Je conseillerais, par exemple, du côté des Bongo, du côté du président Denis Sassou Nguesso, de ne pas se présenter à la prochaine élection qui risquerait malheureusement de ternir le nom, son nom, sa descendance. Puisque après, quand vous voulez marquer l'histoire et que vous restez très longtemps, vous reviendrez sous la forme d'un pantin et cela, ça sera le discrédit, CEDEAO ou pas. Ce qui compte, c'est ce que fait le peuple. Et le peuple congolais veut un changement et ce changement ne peut pas être incarné par celui qui a été au pouvoir depuis les années 70, dans les années 80, dans les années 90, puis dans les années 2000. Je sais pas jusqu'à quand ça va aller.
En Côte d'Ivoire, alors que la bataille sur la légitimité de la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat bat son plein, la justice ivoirienne a confirmé mardi la radiation définitive de Laurent Gbagbo des listes électorales. N'étant plus électeur, l'ancien président ne pourra donc pas être candidat au scrutin du 31 octobre. Les partisans du FPI sont furieux. Reportage à Abidjan de Jenny Lebras.
Dans l'atelier de couture qui borde la piste sans goudron, Alfred le reconnaît, il est abstentionniste. Pourtant, la radiation de Laurent Gbagbo des listes électorales le met en colère.
Ça va envenimer les choses. Déjà, il ne revient pas, on retire son nom de la liste électorale. C'est dit, il ne peut pas se présenter, lui-même ne peut pas voter. C'est déjà un problème. Et ses partisans, ils font quoi? ça crée l'émeute. Donc en réalité, ils veulent nous pousser à quelque chose de pas bien, quoi.
Il y a les sympathisants et puis il y a les militants engagés. Mercredi, la coalition pro-Gbagbo Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a dénoncé l'instrumentalisation de la justice dans la radiation des listes électorales de l'ancien président. Une approche du contentieux partagée par une large portion de la base militante.
Tous ces juges là sont aux ordres de Ouattara. Ne nous parlez pas de justice, il n'y a pas de droit. C'est des suiveurs de Ouattara. Aujourd'hui, il va aller acheter un juge à 200 millions, 100 millions pour radier quelqu'un, mais c'est immoral. Voilà, ne parlez pas de justice, c'est la dictature qu'on vit en Côte d'Ivoire.
La plateforme a annoncé qu'elle considérait cette radiation comme nulle et non avenue, qu'elle ne renonçait donc pas à une possible candidature de Laurent Gbagbo pour la présidentielle d'octobre prochain.
On attend ce jour-là et on va les accompagner à aller déposer. J'espère que ça aussi, on ne va pas nous l'interdire, qu'on puisse accompagner nos leaders à la CEI.
Lundi, Alassane Ouattara avait donc déposé sa candidature à un troisième mandat, ou plutôt à un premier mandat de la Troisième République, si l'on reprend le leitmotiv de son parti, le RHDP. L'opposant Pascal Affine-Guessan, leader du FPI, en a appelé au Conseil constitutionnel pour faire échec, je cite, au braquage électoral d'Alassane Ouattara. Alain Mabankou, que vous inspire cette tentation récurrente du troisième mandat, qui ne touche pas d'ailleurs que la Côte d'Ivoire?
À mon humble avis, je pense que le président Ouattara risque de faire un mandat de trop, mais en même temps, puisque pour se présenter, il avait dit que c'était un cas de force majeure. En droit, quand vous avez un cas de force majeure, on prend des mesures exceptionnelles pour la paix des Ivoiriens, qui laisse peut-être Laurent Gbagbo se présenter. Comme ça, le peuple ivoirien va décider. Si vous écartez, ce n'est plus la force majeure, c'est vous qui créez la force majeure et la gérez. Or, la force majeure est une force indépendante et supranaturel.
Sorti le 14 août, l'album Twice as Tall du Nigérian Burna Boy s'est classé cette semaine numéro 1 des téléchargements d'Apple Music dans 48 pays, dont le Kenya, le Ghana, le Sénégal ou encore le Niger, mais aussi la France et le Royaume-Uni. Un succès planétaire qui en fait aujourd'hui l'héritier de Fela Kuti. RFI Lagos, Lisa Fabian.
Sur le marché d'Obalende, une enceinte crachote des rythmes d'afrobeat. Mais aujourd'hui, la musique nigériane s'est trouvée une nouvelle icône, Burna Boy, dont Abdul a déjà téléchargé le dernier album.
Burna Boy est un géant africain, il a tellement de fans, il m'aide à me calmer et il dit la vérité. Nous l'aimons tous, la rue aime Burna Boy.
Des artistes comme Wizkid ou Davido avaient déjà ouvert la voie, mais le phénomène Burna Boy est d'une toute autre ampleur, selon Sundi.
Grâce à lui, la pop nigériane est devenue virale. Il a collaboré avec plusieurs artistes américains récompensés aux Grammys et le rappeur Puff Daddy a dit que ce sera l'album de l'année. Burna Boy dit au monde que l'Afrique existe et que nous sommes là pour prendre ce qui nous est dû.
En faisant de Fela son inspiration et son maître revendiqué, Burna Boy a insufflé une teinte militante à ses compositions. Une couleur politique qui plaît autant aux Nigérians qu'à la critique internationale, selon le journaliste Oris Aigbo Kaefbolo.
Il a toujours été associé à Fela Kuti parce qu'il a intégré des extraits de ses chansons dans sa propre musique. Le grand-père de Burna Boy était d'ailleurs le premier manager de Fela. Et il se trouve que la critique occidentale attendait depuis des années un héritier de Fela.
Pas seulement intéressé par les femmes et la fête, Burna Boy dépeint aussi l'expérience noire dans plusieurs titres de son nouvel album Twice as Tall.
Burna Boy, roi de l'afropop, un succès mérité à la Mabankou?
Je pense que c'est un succès mérité. De toute façon, le Nigeria nous a toujours habitués à cette avancée dans la musique. On a parlé tout à l'heure de Fela avec la popularisation de l'afrobeat. Là, on a une sorte d'afropop qui arrive. Cela ne m'étonne pas parce que c'est l'un des grands pays d'Afrique. C'est l'un des grands pays où on a un cinéma populaire sur place, ce qu'on appelle le Nollywood, c'est-à-dire qui vient du côté du Nigeria. Et puis, il y a une grande littérature portée par des écrivains comme les Chimamanda Ngozi, les Tejou Cole. Et puis là, sur la musique, ça reste. Il y a toujours les fils Fela qui continuent à faire de la musique. Et là, nous avons cette expression extraordinaire. C'est plus facile pour Burna Boy d'exploser puisqu'il le fait en anglais et il va du côté des États-Unis qui commençaient, possèdent les éléments pour faire décoller n'importe quelle fusée.
Dans Rumeurs d'Amérique, on vous découvre fan de rap.
Oui.
Mais vous n'avez pas forcément les mêmes goûts que votre fils Boris.
Oui.
Lui, s'enthousiasme pour Gucci Mane. Prononciation non garantie.
Voilà, Gucci Mane.
Gucci Mane, voilà.
Gucci Mane. Ou Gucci Mane en anglais.
Vous avez un faible pour Young Thug.
Young Thug, ouais.
Qui vous fait penser à Prince. Pourquoi?
Young Thug est un rappeur qui me fait penser à Prince parce que Young Thug a pratiquement pris l'idée de l'élégance même de Prince où il s'habille avec des habits excentriques qui n'ont pas de genre précis. On ne sait pas si c'est masculin, si c'est féminin. Il ose aussi bien sur le plan vestimentaire et esthétique comme le faisait celui qu'on appelait le Kid de Minneapolis. Donc Prince, pour moi, Young Thug est le rappeur qui fait la continuation pratiquement de ce que Prince faisait dans ce sens. Et il a une voix extraordinaire, et quand on voit ses compositions, même quand il fait des featuring avec les Drake, quand il fait les featuring avec la jeune génération incarnée par exemple par les Ghana et les jeunes rappeurs qui montent actuellement, ça donne vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le nouveau rap américain.
Jours en France.
Le MLF, le mouvement de libération des femmes, a fêté mercredi ses 50 ans. Un demi-siècle après sa création, le combat continue. Une nouvelle génération de féministes a pris la relève pour défendre l'égalité des sexes et le droit des femmes. On connaît bien les fémènes, un peu moins les colleuses. Stéphane Genest les a rencontrées.
Dans ce quartier résidentiel de l'Est parisien, impossible de louper ces messages sur les murs. Elle le quitte, il la tue, ma jupe n'est pas une invitation, ou encore on ne veut plus compter nos mortes. Derrière ces slogans, des militantes féministes, elles dénoncent les violences faites aux femmes. Camille Lextrait, 24 ans, est l'une d'elles.
C'est beaucoup de pédagogie, en soi les slogans qu'on fait, c'est de l'information aux citoyens, aux citoyennes pour alerter sur des sujets qui nous semblent importants. C'est à la fois un mode d'action qui est unique, chaque personne va pouvoir coller ce qui lui semble important et nécessaire de voir sur les murs.
Plusieurs fois par semaine, avec d'autres militantes, elle se retrouve pour coller ses messages sur les murs. Après une bonne heure de préparation entre le choix des slogans, leur écriture et la confection de la colle, le moment est venu de passer à l'action.
Allez, on y va. Alors, il y a un mur là-bas. Est-ce qu'il est lisse? Je suis pas sûre, mais on
On dirait du crépi.
En tant que femme, on m'a toujours appris à être docile et à ne pas me faire remarquer. Et avec les collages, c'est complètement l'inverse, en fait. Là, les mecs qui se sont arrêtés pour nous regarder foncièrement, on les calcule pas et on passe outre.
Aujourd'hui, en France, entre 1500 et 3000 militantes féministes font partie de ce mouvement. Mouvement qui fête cet été son premier anniversaire.
Des colleuses dorénavant obligées de sortir masquées, comme tous les Parisiens et Parisiennes. Le port du masque est depuis un matin obligatoire partout, dans 21 départements français classés zone rouge. Il s'agit d'enrayer la nouvelle vague de contamination au coronavirus. Alain Mabankou, vous avez écrit de très belles pages sur James Baldwin dans Rumeurs d'Amérique. Vous racontez que lorsque vous viviez dans le Michigan, c'est sa photo qui était punaisée au-dessus de votre table de travail. Il avait, je vous cite, le visage du frère que j'aurais aimé avoir, du père biologique que je n'avais pas connu. Pourquoi James Baldwin fait-il partie de votre panthéon ?
James Baldwin fait partie de mon panthéon parce que je suis fier de ce qu'il a fait pour les droits civiques aux États-Unis. Je suis fier de ce qu'il a écrit, aussi bien sur les romans que les essais. Je suis fier qu'il ait accepté de façon courageuse sa situation, parce que dans les années 50, c'était pas évident d'être à la fois noir, écrivain et homosexuel, si bien que quand on lui demandait « qu'est-ce que ça vous fait comme impression d'être noir, homosexuel et écrivain ?», il disait toujours que « c'est que j'ai gagné le jackpot ». James Baldwin, c'est le phare. C'est maintenant qu'on a besoin de la parole de James Baldwin. C'est pour ça que je conseille d'ailleurs à vos auditrices et à vos auditeurs de lire la prochaine fois Le Feu de James Baldwin. Vous allez voir comment c'est actuel, comment ça explique les turbulences de notre société.
Vous reprenez sa phrase, agir c'est s'engager, et s'engager c'est prendre des risques. Est-ce qu'on prend des risques quand on accepte, comme vous l'avez fait en 2003, à la demande de vos étudiants, de discuter en cours à l'université de la guerre en Irak, guerre menée par George Bush, une guerre à laquelle la France avait refusé de s'associer?
Oui, je pense que la discussion politique est délicate parce que on essaye aux États-Unis de faire de sorte que la classe ne soit pas le lieu de contradictions politiques ou quoi. Quand vous rentrez dans une salle de classe, ce qui est important pour vous, c'est cette force dans la connaissance et le respect des idées de chacun. Donc j'ai toujours, pour ma part, accepté cette forme de neutralité. Mais j'avais discuté de la guerre d'Irak de manière plus prudente en laissant les étudiants le faire et en recevant cet étudiant-là qui avait eu
un problème.
Oui,
parce que vous comprenez vite que les étudiants que vous preniez pour des pacifistes, en fait, sont tous derrière le gouvernement américain, sauf un qui demande à vous parler en tête à tête.
Il demande à me parler en tête à tête parce que je ne comprenais pas que, en ayant abordé cette question de la guerre d'Irak, pourquoi mon étudiant était si presque révolté ou triste quand il est venu me voir. Et c'est là que je vais apprendre que il a son frère qui était de l'autre côté sur le front et que un jour on est venu frapper à leur porte pour annoncer que, eh ben, il venait de mourir pendant cette guerre d'Irak. C'est pour cela que j'ai toujours cette sorte de réserve, parce que je ne sais pas si ce que je suis en train de dire concernant la politique dans la classe peut-être avoir des conséquences dans la vie d'un de mes étudiants. Je garde ma neutralité de professeur, je garde mes convictions politiques et j'en discute dehors, pas dans la classe. Dans la classe, j'enseigne la littérature d'expression française.
Alors, dernière question plus légère hein, pour terminer cette émission. Comment le sapeur que vous êtes est-il perçu par vos étudiants?
Mes étudiants, au lieu de m'appeler ma bancou, ils m'appellent ma bancoul parce qu'ils pensent que je suis plutôt plus détaché, je suis un professeur plutôt iconoclaste. Quand j'enseigne, je ne suis pas assis. Je suis toujours debout, je vais d'un bout à l'autre de la classe, je fais comme si j'étais en train de déclamer, je n'ai pas de notes parce que je veux que l'enseignement soit une sorte de voyage, d'odyssée entre les continents. Je les fais entrer dans l'histoire du Congo, je les fais visiter le royaume Luango, je traverse le fleuve Congo, mais je vais aussi jusqu'au Zaïre, l'ancien Zaïre, mais j'arrive aussi du côté de la Côte d'Ivoire pour leur parler peut-être du grand Bernard Dadier, sans oublier aussi de passer du côté du Togo pour citer des écrivains comme les Kossi Yefui, les Sami Tchak de la nouvelle génération et pourquoi pas du côté même de Djibouti avec mon ami Abdourahmane Ouaberi.
Et est-ce que votre côté ambassadeur de la SAP les fascine?
Ils sont fascinés par la SAP parce que chaque fois que ces étudiants américains me voyaient rentrer dans la classe, j'étais toujours tiré à quatre épingles en congolais qui se respecte. Et à ce moment, ils ont demandé, mais qu'est-ce que c'est que cela? Et c'est là que j'ai dit, c'est la SAP. Je leur ai parlé de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et là, je prépare un cours sur la SAP à la congolaise et à l'américaine, parce que les Américains aussi ont leur styliste noir qui habille les rappeurs, les vedettes du basketball comme les LeBron James et les autres.
Vous expliquez qu'il ne faut pas voir dans la SAP une extravagance gratuite. En quoi la SAP reflète-t-elle pour vous une vision du monde et la revendication sociale d'une jeunesse africaine en quête de repères?
La SAP est l'expression corporelle pour dire, même vis-à-vis des hommes politiques, que vous pouvez nous retirer cette liberté, cette voix dans la gestion, dans ces choses politiques, mais vous ne pourrez jamais contrôler l'élégance que nous insufflons à notre corps. La SAP est une réponse de la jeunesse congolaise des deux Congos. La SAP est une réponse pratiquement politique et frontale pour dire que vous pillez le pays, vous avez toutes les richesses, mais jamais vous ne pouvez piller cet esprit de l'élégance que nous avons.
Merci beaucoup Alain Mabankou d'avoir été notre invité et de nous avoir fait voyager. Rumeurs d'Amérique vient de paraître chez Plon. Merci à Sophie Janin qui a réalisé cette émission que vous pouvez réécouter sur notre site RFI.fr ou en podcast sur l'application RFI Pure Radio. Bon week-end à tous et portez-vous bien.